France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste pour qui chaque album est une mue, un déplacement, presque un nouveau chapitre d'un même livre qu'il réécrit depuis la fin des années 90. Un artiste dont le parcours ressemble à un labyrinthe volontaire, un endroit où à chaque tournant apparaît une nouvelle version de lui-même. Il y a eu, évidemment, This Is La Peste, le rappeur affamé du début des années 2000. Il y a eu Peter Punk et l'aventure rock. Et puis il y a eu This Is Tout Court, celui qui explore les sentiments, celui de l'amour, sûrement son plus grand album, devenu disque de platine. Et sur son nouveau projet, on s'en rappellera pas, c'est presque un livre de 20 morceaux, 49 minutes de musique qui refuse le confort, un album de chansons traversé par du rock, encore une fois, de la pop, des synthés électroniques et des accents de chansons françaises. Et puis, il y a les rencontres, Kid Cudi, Laurent Voulzy, Iliona, Théodora, des univers que tout oppose et où pourtant tout s'assemble, tout se répond. Et c'est sûrement ça, la force de This Is en 2025, faire cohabiter des mondes qui ne sont pas censés se parler. Ce soir, on va évidemment discuter de ce nouvel album, tout en prenant le temps de tirer le fil de sa carrière si singulière. On est avec This Is pendant une heure à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Comment ça va, This Is?
Ça va bien.
Bon, je suis content que tu sois là.
Ah, moi aussi, comme d'habitude.
Comme d'habitude, dans cette nouvelle émission, parce qu'on ne s'est pas encore vu.
Bien sûr.
Dans ce format. Et tu viens pour ce nouvel album, on s'en rappellera pas. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose directement qui m'a frappé quand, tu sais, je regarde les albums sur les plateformes de streaming. C'est comme ça que je consomme la musique aujourd'hui.
Bien sûr.
J'ai vu qu'il y avait une majuscule qui, effectivement, a été retirée à ton nom. Pourquoi?
C'est inspiré de Bell Hooks.
Ouais.
Qui elle-même sur ses ouvrages n'a pas mis de majuscule pour que ce ne soit pas l'auteur qui soit important, mais le propos. Je trouve ça pertinent, et puis c'est une auteure que j'aime énormément, qu'on se partage avec mes filles, et du coup, bah, ça donnait du sens particulièrement à ce disque-là, où bah, moi, ça fait 25 ans que je fais ça.
Ouais.
J'ai dépassé le côté ego trip ou me prouver des choses. Pour moi, c'est vraiment un propos qui m'intéresse.
Mais c'est vrai que tu viens d'un format très très rap, il n'y a pas de doute là-dessus. Où effectivement, il y avait beaucoup d'ego trip, les bêtes de bombe, on en reparlera, etc. Plein de morceaux qui t'ont permis en tout cas d'être crédible dans le rap à la fin des années 90. Dans un milieu effectivement où il faut souvent être le plus fort, être le numéro un. Sur cet album, et effectivement, t'as raison, c'est pas nouveau quand on écoute This Is, mais il y a beaucoup de vulnérabilité. C'est vrai, toi aujourd'hui, t'es complètement délaissé de cette envie de prouver, d'être le numéro un. Il n'y a plus du tout ça dans ta manière de concevoir la musique.
Vraiment, sincèrement, il n'y a plus du tout ça. En plus, là, bah, on est premier du top avec Théodora tout. Moi, je ne partage pas les stories, les trucs et tout.
C'est vrai que tu te la racontes pas là-dessus.
Non, mais
alors que t'es le morceau numéro un du pays, quand même.
Ouais, mais c'est tellement subjectif. J'ai tellement eu des passages à vide où, pour moi, j'avais des chansons qui étaient extraordinaires. Et puis, avec le recul, bah, pas tant que ça. D'autres, oui. Que ça tient à rien, c'est plus pour moi, faire de la musique, bon, quand on est dans ces dimensions-là, c'est un peu comme aller à la machine à sous, tu sais pas si ça va marcher, pas marcher. En tout cas, pour moi, il y a d'autres qui ont ce savoir-faire, qui placent plein de numéro 1 et tout, mais moi, c'est pas mon objectif. Donc, du coup, je le célèbre pas. Je suis content, mais je le célèbre pas.
Alors, cet album-là, pour moi, il est logique quand on t'écoute depuis longtemps, mais c'est presque un nouveau This Is, en tout cas une forme d'évolution supplémentaire. Je me suis demandé, est-ce que c'est une étape dans les différentes mutations de This Is, ou est-ce que c'est ce que tu voulais faire depuis le début? J'ai mentionné Peter Punk, les deux albums n'ont rien à voir, mais on sent en toi que ça fait longtemps que tu cherches finalement d'aller vers des choses parfois un peu plus rock, effectivement, un peu plus pop aussi, c'est quelque chose qui est en toi. Et quand je dis pop, je dis pas ça dans le sens justement faire des tubes, pas du tout, une forme de son en tout cas. Est-ce que t'es arrivé à ce que tu cherchais, ou pour toi c'est juste c'est encore une proposition parmi les 14 albums que t'as sortis?
Ouais, honnêtement, c'est une proposition. Je cherche pas quelque chose en particulier, encore moins maintenant, encore plus depuis l'amour, où le fait de vraiment m'être fait confiance, plus personne n'attendait rien de moi. Je suis parti dans un disque que j'ai fait qui pour moi était la musique que j'aime bien, un peu funky, un peu tout un tas de choses, un peu, tu parlais tout à l'heure de chansons françaises et tout. Moi, j'essaie juste, à ce moment-là, quand je fais l'album L'Amour, de faire un truc où, bah, vas-y, plus personne m'attend, je fais exactement ce que j'ai envie, comme j'ai envie, et ça fonctionne, tu vois. Mais je cherche pas à me trouver, pas du tout. C'est juste que l'excitation que j'ai eue quand j'avais 12, 13, 14 ans, cette excitation de me dire il y a un courant musical qui arrive qui est extrêmement fort parce que j'ai 15 ans à ce moment-là, donc je parle du rap, et que ça me décuple et que ça fait que j'ai l'impression de faire partie d'une culture, limite d'une religion, de quelque chose où on se repère, on se connaît pas, mais quand on monte sur Paris, on se repère entre mecs et meufs qui écoutent le même truc et tout. Cette excitation-là, bah, elle est passée quand j'avais 16, 17, 18 ans, mais c'est quelque chose que j'ai pu... un input que j'ai pu mettre dans d'autres envies musicales, d'autres essais, comme le rock... Comme la musique sénégalaise. Après mon premier album, c'est je suis vrai. Parti au Sénégal. En fait, c'est juste un espèce de laboratoire d'essayer des choses. Et j'ai rapidement trouvé ça un peu limitatif de me dire bon, bah, c'était la meilleure période, l'âge d'or du rap français et tout. Pour moi, c'était la meilleure période et je ne vivrai jamais quelque chose d'aussi grand que ça. J'ai vite dépassé ça assez rapidement. Ouais. C'est peut-être ça qui fait que j'ai fait beaucoup de pas de côté.
Sur l'album, il y a, je l'ai dit, quelques collaborations, notamment une collaboration avec une légende de la chanson française, Monsieur Laurent Voulzy, sur le morceau qui s'appelle « Surfeur ».
Elle est ma surfeur, surfeur. Tu n'es pas un surfeur. Donc tu t'es mis au surf. T'as passé la barre, et t'as vu la tasse, puis t'as cherché les vagues, t'as trouvé les vagues, t'as surfé les vagues. Voilà, tu es beau, tu es seul au large, sous le soleil tu nages, tu la love, tu la love, voyage vers le beau.
Et alors, on sait que Laurent Voulzy est rare. C'est un peu le Franco-Chien français, en fait. Ou le André 3000 français, c'est peut-être lui, finalement. Mais en regardant et en me souvenant, je me souviens qu'il justement, il a déjà collaboré avec, dans le rap français, notamment sur un album qui s'appelle Quality Street, de Toc Gineco, sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2001 sur le morceau Noir et Blanc.
Laissez les noirs, laissez les blancs, mais qu'ils divorcent, fassent des enfants qui tendent leurs bras, des innocents. Aux gens de couleur que n'a
c'était aussi un prétexte pour réécouter ce morceau que j'aimais beaucoup. Et finalement, je ne m'étais jamais fait cette comparaison. Mais entre toi et Doc Gineco, il y avait en tout cas chez Gineco cette même envie d'exploser les codes. Faites pas du tout la même musique, évidemment.
Non, mais, je capte.
Mais mine de rien, quand on écoute Liaison Dangereuse, Quality Street, cet album-là, qui est vraiment un joli album où il y avait Chiara Mastroianni aussi qui était invité. Enfin, eh ben. Mine de rien, vous partagez cette même envie de ne pas... Bah d'ailleurs, sur son premier album, il y avait le morceau « Classez-moi dans la variette » chez Gineco. Donc, il y a un point commun, finalement, que je n'avais jamais remarqué.
Oui, oui, c'est vrai. Bah, c'est ce côté d'assumer pleinement toutes ses influences et d'avoir, pour lui, en tout cas, à ce moment-là, déjà un recul sur... voilà, moi, je ne veux pas faire le gangster. Si je veux faire de la musique West Coast, je vais chercher des mecs de la West Coast.
Exactement.
Il y avait un côté très limite... premier degré, genre. Mais avec toute sa poésie et tout ce qu'il a écrit et tout. Mais déjà, quelque chose de... ouais, je m'en fous vraiment de ce que vous allez penser, classez-moi dans la variété.
Ouais.
Moi, limite, c'était punk de faire ça à ce moment-là, parce que c'était le moment où le rap, c'était la musique que tout le monde écoutait. Faire un pas de côté comme ça, c'était wow.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir Laurent Voulzy?
Je pense que ça n'a pas été compliqué pour moi. Parce qu'après, c'est passé par du management simple. On demande au manager, il est OK, il m'invite à un concert. Et puis, on se rencontre en vrai. Et vu que moi, dans la vie, je suis plutôt timide, introverti, pas très à l'aise en société, et que lui, il est pareil. Du coup,
bah, du coup on s'est capté. Catastrophique.
Non, parce que non, justement, on pouvait dire des choses très fleur bleue. Ah, j'aime beaucoup ta musique. Okay. Ah bah, ça me fait plaisir.
Sans que ce soit embarrassant.
Sans que ce soit embarrassant, parce que c'est deux petits hninous qui le disent, quoi.
Ok. Bon, alors, tu l'as dit, le morceau numéro 1 du pays en ce moment, c'est le morceau Mélodrama avec Théodora. On est obligé de le jouer.
Bah, obligé, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça me fait kiffer de l'entendre.
T'en as toujours pas marre de ce morceau?
Non,
toujours un plaisir.
Ah,
bon, Diffif Théodora, Mélodrama, donc extrait de ce nouvel album, on s'en rappellera pas.
Blessé, BG, VGT dans le TGV, dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel. Ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle. Tout court. douleur de la vie sans toi. Tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. Ça fait si mal, oh, que ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mêlé mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne.
Oh, j'plaise surtout sous les yeux.
Pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un coup dans ce mélodrame. Ça fait si mal, donc ça fait pas longtemps. Son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'avais vraiment été ta Valentine.
Mélodrama, donc le morceau de This Is, notre invité ce soir dans La Régulière.
France Inter. Mehdi Maizi à La Régulière.
Morceau de This Is, évidemment, avec Théodora, une de tes dernières collaborations en date. Avant de continuer à parler de ce nouvel album, je suis obligé de reparler un petit peu du passé, notamment de ton arrivée fracassante dans le rap français mainstream avec ce morceau, évidemment, Je pète les plombs.
Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète les plombs, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job. J'ai plus rien à perdre, alors je pète mon job.
Évidemment, c'est ton premier tube sur un album qui a Marché, le Poisson Rouge, qui est un album important dans l'histoire du rap français. On te voyait partout. Et à chaque fois que je parle de cet album-là, je me souviens aussi que sur l'album, il y a Joey Starr, donc figure d'NTM, Akhenaton, figure d'IAM. Ce qui est impensable,
ouais,
en fait,
ouais,
à ce moment-là.
Imaginable.
Donc il y avait un peu un côté, This Is, presque l'élu. Tu vois. Est-ce que tu sentais ça, le côté? Et peut-être que c'était aussi beaucoup de pression, cette espèce d'enfant un peu prodige du rap français à cette époque-là, qui était à la fois soutenu par Skyrock, par des gens plus indés, enfin.
J'ai clairement senti ça. C'est comme si, je rêvais de ça depuis que j'étais petit, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant dans les faits, et donc aussi dans le revers de la médaille. Je m'y attendais pas du tout. Mais j'avais déjà ce côté, rassembleur. Moi, tout simplement, je parlais de Prom Dog tout à l'heure, j'écoutais IAM, j'écoutais NTM.
Oui.
Si je peux avoir mes deux super-héros sur mon disque, sur le morceau sera peut-être le même morceau.
Ouais,
sera peut-être compliqué.
Un peu trop.
Mais déjà, d'avoir les deux, d'être adoubé par les deux, c'était incroyable pour moi. Mais oui, j'avais ce sentiment un peu d'être un espèce de phénomène. Je me rappelle, trois mois après, avant, je travaillais au McDo, je me retrouve sur une émission avec Thierry Ardisson où il a embrassé ma chaussure. Tu sais, c'est des espèces de trucs disproportionnés.
C'est fou, oui.
C'est un transfuge de classe qui est éclair auquel tu n'es pas préparé.
Et en plus, le morceau qu'on vient d'entendre, Je pète les plombs, on ne se pose même plus la question maintenant parce qu'on l'entend depuis 25 ans, quelque chose comme ça, mais il n'a rien d'un tube.
Non.
C'est un morceau vraiment de rap, avec des vannes, mais qui n'est pas un morceau rigolo. Au refrain, il y a des vulgarités. C'était même étonnant, en fait, que ce morceau marche autant, finalement.
Mais moi, j'étais le premier étonné, et c'est ce qui a constitué, je pense, une certaine forme de d'errance ou de malédiction, entre guillemets, dans la musique. Je me plains pas, tout va bien.
Oui.
Mais c'est juste que, plusieurs fois, on m'a demandé implicitement, c'est jamais fait un tube, mais ce serait bien que t'aies un tube.
Ouais.
La radio te renvoie ça, les différents médias, même tes potos, tout ça et tout truc et tout. Sauf que moi, j'ai pas fait exprès. Donc du coup, vu que j'ai pas fait exprès de faire « Je pète les plombs », quelques autres fois sur quelques albums, j'ai essayé de faire des trucs et tout, ça marchait pas. Depuis l'amour, je me suis dit « Je calcule plus ces trucs-là. » Je fais « Moi, ma manière de faire, c'est de ne pas savoir ce que je fais, mais juste d'y aller à fond, de mélanger des trucs, et juste si mon instinct me dit « C'est bon, c'est bon. » Et ça commence à être bien, en tout cas.
En 2009, il y a un album qui s'appelle « This is the End », qui était censé être ton dernier album de rap, ton dernier album même. C'était donc, et donc, il y a le morceau éponyme « This is the End ».
La fin de l'enfance, la fin des rêves, la fin des temps. Adieu ma jolie reine, ma jolie zik que j'aime tant. Que je le veuille ou non, je suis passé dans le camp des grands. J'avais pas l'écran de crever, je voulais crever l'écran. J'étais tout seul, tout le temps. Mon premier crime fut de tuer le temps. As-tu lu le dernier article qui dit que d'ici je quitte le ring? En ça y'a rien de dramatique, à part que c'est juste la fin d'un cycle. Enfin tu peux y voir un signe, je partage ton opinion. Les méandres sont magiques et c'est la sortie que nous fuyons. Nous vivons à reculons, les yeux sur le passé. Plus on reculons, voir que la vie c'est tassé. Les yeux d'enfants sont cassés, rêve de cristal, que je le veuille ou non, mon destin fait du freestyle.
Est-ce qu'on peut se dire la vérité? Les retraites de rappeurs, ça n'existe pas. Vous aimez trop ça.
Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, après, j'ai fait Rap Machine,
bah oui.
J'ai fait toute la trilogie.
Même la trilogie, des, exactement.
Bien sûr. Mais il y a quand même quelque chose avec ce disque, il y a quand même une partie de moi ou du rappeur que j'étais, ou de tout le tous les idéaux que j'avais sur cette musique-là qui est partie, et il y a une partie de moi qui est morte et qui s'est arrêtée à partir de ça. Après, j'ai teinté ma musique d'autres choses, j'ai eu un autre point de vue, mais tout ce que j'avais de 15 à 20 ans de rap et vraiment tout ce que ça voulait dire pour
cette
moi.
Cette espèce de naïveté vis-à-vis du rap,
c'est ça.
Elle est morte à ce moment-là, en
c'est
fait.
C'est ça. Ouais. Moi, j'ai 47 ans, donc moi, j'écoute Le Monde de Demain, j'écoute
Kenny,
j'écoute IAM, Demain c'est loin et tout. Le message et le fait que le rap va vraiment potentiellement changer les choses dans le pays, j'y crois vraiment. Et puis, quelques années après, je me dis, ouais, non, ça va rien changer.
Est-ce que c'est aussi à ce moment-là, parce qu'il y a un peu avant, il y a cet album, en 2005, Histoire extraordinaire d'un jeune de banlieue, un album que j'aime beaucoup, qui était important, je l'ai déjà dit, qui était important à la maison même. Ma maman l'écoutait beaucoup, cet album. Mais c'est aussi un moment où tu sais, qui sort un moment très particulier, les fameuses les décès de Ziad et Bouna, les émeutes en 2005. On te voit beaucoup à la télévision, et parce que je pense que c'était aussi sincère dans ta démarche, et t'avais même ce côté un peu porte-parole, quelque part, du rap, qui a un rôle extrêmement important et sûrement un rôle trop important pour n'importe qui. Et en plus, ça coïncidait avec un moment où tu sortais un album qui n'était pas un album qui paraît spécialement de l'actualité. Est-ce que tu te souviens de cette période-là? Est-ce que ça a été peut-être un peu compliqué à négocier derrière?
Ça a été extrêmement compliqué parce que dans ma vie personnelle, je faisais face à des choses terribles. Donc j'avais des mecs sur le dos qui voulaient me racketter. Ouais. Et d'un autre côté, il y avait tous ces tumultes sociétaux où moi, j'avais un propos, j'avais une sensibilité, j'avais quelques bouquins dans les pattes, tout ça et tout, mais j'étais candide. C'est-à-dire que j'arrive dans des émissions de télé où on me demande de parler de certains sujets. En vrai, c'est pas à moi d'en parler. J'ai pas d'études d'anthropologie, de sociologie, c'est pas mon rôle. Mais, comme je le disais, tu vois, on vient tellement de rien que,
On y va.
Ouais. Et puis, t'es à la télé, tu peux parler pour les gens qui n'ont pas l'occasion de parler, essaye de parler. Sauf que dans ces moments-là, je me suis pas rendu compte que je pouvais être Jacques Villeray dans Le Dîner de Cons et qu'on me donnait un espèce de rôle de Benny Oui-Oui. Mmh. Et moi, j'essayais de m'extirper dans tout ça. Et puis, bon, voilà, quoi. Il y a des choses que j'ai ratées, d'autres que j'ai réussies. Il y a une émission avec Ekwe et Joe Star qui.
Sur
Arte, qui a été très, très mouvementée. Mais depuis, on s'est revus.
Ouais.
Depuis, je discute avec Ekwe. C'est d'ailleurs fascinant de voir les trajectoires de chacun et comment on peut se retrouver un moment, parce que la vie, c'est la vraie vie. Mais derrière, j'ai affaire à des choses dont on parle là dans le bouquin L'Empire et tout, c'est la vraie vie. C'est la vraie
T'as
vie.
T'as été confronté à ça.
J'étais confronté, je vais en faire un film d'ailleurs.
Ah, c'est vrai?
Ouais, ça va être mon premier film.
Que tu vas réaliser?
Que je vais réaliser, ouais.
C'est incroyable ça.
Ouais, c'est mon but.
Qui sera justement sur ce que toi t'as vécu et sur la réalité aussi de ce que c'est d'être un rappeur à succès.
Plus large que ça, c'est les rapports de domination dans les quartiers populaires.
Okay.
On n'en parle pas et je vais parler de ça.
This is est notre invité ce soir en attendant son film. Tu es là parce qu'on l'a dit, il y a un nouvel album qui s'appelle On s'en rappellera pas. Et il y a quelque chose, c'est-à-dire que pour moi il y a une forme de suite logique avec l'amour, mais je ne sais pas, l'amour malgré toutes les choses compliquées que tu racontais dedans, il y avait une forme d'esprit un petit peu assez joyeux. On avait envie de rouler en décapotable, tu vois, le long de la corniche à Marseille. Ouais. C'est ce que m'inspirait quand même cet album.
Je capte.
Et sur celui-ci, il y a quelque chose de beaucoup plus froid, même dur, cet album. Donc je me dis, est-ce qu'il a été douloureux aussi à sortir? Est-ce qu'il fait aussi écho peut-être à un moment plus compliqué peut-être dans ta vie? Parce que l'amour, on sentait que ça avait été dur, mais on avait l'impression que tu sortais de ça et que ça allait mieux. Là, on écoute un homme, j'ai pas ce sentiment-là, malheureusement.
Mais c'est normal, parce qu'on est dans un monde où une partie de la planète est à feu et à sang. J'invente rien, les gens vont pas découvrir ça, j'ai une nature un peu tristounette, je passe par des étapes de dépression, c'est réel, c'est pas parce que ça fait vendre des disques.
Oui, oui.
Mais le fait de venir d'un quartier et de réussir, d'avoir une ascension fulgurante, bah ça convoque des problématiques de quartier que seul quelqu'un qui vient d'un quartier peut être amené à être confronté à ça. Et ça abîme en plus de tes problèmes personnels et tout.
Ouais.
Et donc forcément, bah, t'es déjà abîmé de ça. Donc quand tu passes dans une séquence de vie et une époque où il y a des conflits absolument effroyable, et voilà, tout le questionnement politique sur l'avenir du pays, et même la manière dont les relations interpersonnelles ont changé avec le téléphone, tout ça et tout. Moi, j'ai 47 ans. Je fais pas de jeunisme. Jamais j'essaie de faire le jeune ou je sais pas quoi. Bah, forcément, le monde qui change, pour le bon comme pour le moins bien, je le vis vraiment à l'intérieur, quoi. Et en plus, je suis artiste, donc j'observe, j'analyse, je suis sensible. Donc forcément, ça se retrouve dans ma musique et je trafique pas ma musique.
Quand on parle de cet album, en lisant quelques articles, il y a beaucoup de gens qui citent Frank Ocean. Est-ce que c'est quelqu'un dont la musique a pu t'inspirer ou est-ce que tu l'as réécouté en construisant ce disque?
Oui, après c'est un album majeur qui déjà m'avait aidé pour l'amour.
Tu parles de Blonde?
Je parle de Blonde, mais en fait, moi, Frank Ocean, c'est pas que Blonde, c'est Nostalgia Ultra, c'est Channel Orange.
Même
c'est...
Endless, hein, il est
même
intéressant.
Endless. D'ailleurs, je l'écoute pas beaucoup, Endless.
Ouais, moi aussi, parce qu'en fait...
Il est moins facile d'accès.
Voilà, c'est ça.
On est vraiment des Yankees. mais c'est vrai que c'est vraiment toute sa proposition, parce que bah, quand dans Nostalgia Ultra, tu vois qu'il va poser sur un morceau de Coldplay, et puis il va reprendre les Eagles, tout ça, bah moi, forcément... C'est des choses qui me parlent. J'avais fait ça déjà sur This Is Uncanny. Je me demande pas si j'avais pas repris un espèce de sample un peu pop.
C'est... This Is Uncanny, pour info, c'est une mixtape qui est après le premier album, si je ne dis pas de bêtises. Ou avant,
c'est après,
je crois. Donc voilà, c'est au tout début de ta carrière.
C'était le street marketing pour l'album Jeux de Société. Et du coup, bah, cette hybridation de plein d'influences qu'il fait et qu'il s'autorise, forcément, ça me parle.
Toi, aujourd'hui, justement, t'as créé ton label. Enfin, il y a aussi une forme d'indépendance et tu connais bien l'industrie. D'ailleurs, je me souviens que sur l'émission que vous aviez, le Sublime Radio à l'époque, sur Apple Music, vous parliez de ça, je crois, dans un des premiers épisodes, justement, de ce que c'est que d'être signé en maison disque. Toi, t'as connu différentes vies en maison disque, des épisodes heureux, des épisodes un peu moins heureux. Aujourd'hui, c'est quoi ta relation avec l'industrie? Est-ce que tu la prends comme... Il y a des artistes qui nous disent, mais moi, c'est une banque. C'est-à-dire qu'un label, il me donne de l'argent et moi, je gère tout le reste. Il y a parfois des artistes qui sont un peu plus connectés, qui aiment même l'industrie. Comment t'es, toi, aujourd'hui, après 25 ans de carrière?
Alors, j'ai été pendant très longtemps dans la défiance parce que l'industrie du disque, particulièrement pour les rappeurs, il y a encore 20 ou 30 ans, c'est une moissonneuse-batteuse. C'est-à-dire que ça te prend, ça t'exploite. Et après, tu dégages quand ça marche plus. Donc ça, je l'ai compris assez vite. Mais mes rapports aujourd'hui, c'est un peu dans tout ce que je fais. C'est que, certes, c'est une industrie, mais derrière, il y a des humains. Donc quand je trouve des humains pertinents dans cette industrie, à partir du moment où j'ai bien tout sécurisé contractuellement, je suis absolument ouvert à travailler avec des gens pertinents, parce qu'il y a des gens pertinents partout. C'est pas les gentils, les méchants, c'est pas ça la vraie vie. Mais maintenant, voilà, c'est sécurisé au niveau contractuel, et après je suis ouvert. Je tiens juste à dire par rapport à Sublime, mais j'en parlerai plus tard, ça fait un an et demi que je suis plus dans Sublime. Mais j'en parlerai plus tard, mais c'était juste parce que tu as cité
mais
ça.
Mais le label existe encore, mais toi tu n'es plus...
Voilà, je suis plus dedans depuis un an et demi.
Okay. Mais sachant que aussi, c'était aussi une des étapes, parce que même avant, je sais que tu avais déjà aussi produit des gens, enfin travaillé avec des artistes, je me souviens même que Attic, je crois que c'est toi qui avait été très tôt, tu l'avais repéré, on le voit même dans un clip d'un des morceaux de Rap Machine. Il est dans un bar, il y a
allez sur YouTube. Instinct, je crois, le clip.
Je sais plus, et même dans le clip, non, alors peut-être celui-là, le clip avec ALPH.
Ah oui.
On le voit dans un barbecue. Il y a une scène de barbecue.
Plus de la chanson, mais oui.
C'est une de ses premières apparitions, je pense, publiques à Attic.
Ouais.
Il y a aussi d'autres collaborations, bien sûr. Il y a, on l'a dit, Laurent Voulzy, on a cité Théodora. Il y a Kid Cudi, évidemment, sur une nouvelle version, en fait, de Twice or Twice, qui est un morceau que tu avais joué à Colors. On sait aussi qu'il est maintenant très présent à Paris. Je crois que sa compagne est française, qu'il aime beaucoup la ville. Il met souvent un petit solar sur Instagram. Je crois qu'il il adore le morceau Caroline. Comment t'as attrapé Kid Cudi?
C'est grâce à DJ Mehdi.
Ok.
Encore incroyable.
Encore.
Même après sa disparition, il fait des traits d'union magiques tellement il était lumineux. En gros, je suis invité à l'avant-première de,
du documentaire
sur DJ Mehdi fait par Thibaut de Longeville. C'est un mercredi soir. Je suis bouleversé. Je vois le documentaire. Je suis bouleversé. Comme beaucoup de gens. Et vendredi, samedi, dimanche, j'avais loué un studio à Paris, studio Rue Boyer. Et voilà, j'étais censé.
Très beau studio.
Très, très beau studio.
Je tiens à le dire.
Ouais, très, très beau studio. Et Thibaut m'appelle le lendemain, le jeudi soir, et il me dit: Cédric, je sais que tu es en studio demain, mais est-ce que tu pourrais laisser ta place à Kid Cudi? Parce qu'il a vu le documentaire, il a trop kiffé, il a demandé s'il y avait des instrus DJ Mehdi inédites. On s'est appelé avec Pedro et tout, donc on en a. Et donc, il est en train d'enregistrer. Est-ce que tu peux laisser ta place et passer dans le studio B? Je dis: ok, pas de problème. Et le premier jour, le vendredi, Thibaut vient me voir, il me dit: ouais, il y a Kid Cudi, il aimerait te remercier, tout ça et tout truc. Donc il vient dans le studio, tout ça, il me remercie, tout ça et tout truc, il me demande à faire écouter des sons, je fais écouter des sons, il aime bien et tout, il repart dans la tête, je lui dis: il fait le quinri, tu vois, genre... Une heure après, deux heures après, Thibaut me dit: ouais, il aimerait bien te faire écouter ce qu'il est en train de faire sur le projet avec les compositions de DJ Mehdi. J'y vais, j'écoute, il y a 4-5 titres. Et je sais pas pourquoi, je dis: ouais, ces titres, tous les titres commencent un peu pareil, je pense que sur ce titre-là, tu pourrais commencer à cappella, tu vois. Bref, il pose, il dit à son ingé d'enlever l'instru, ça fonctionne, trop bien et tout. En gros, j'ai fait un petit truc de réal, genre, d'après moi, je réal un truc pour Didier. Bon, bref, il kiffe et tout ça et tout. Et en partant, sa session est finie, il me demande mon numéro de téléphone. Je lui dis, dans ma tête, je dis encore, il fait le carré, il est vraiment poli. Bref, je vais me coucher, je me réveille le lendemain et je vois que j'ai 4 notifications de Kid Cudi qui me dit: j'ai trop kiffé notre discussion hier, j'ai trop aimé ta musicalité, ce sera un honneur pour moi de t'inviter sur le projet que je suis en train de faire avec DJ Mehdi. J'ai dit: what? Ok et tout. Et là, du coup, j'ai fait le CFR. Et j'ai dit: bah, moi, j'aimerais bien t'inviter sur mon projet. Et il est venu et on a fait le morceau Try, et je suis trop content.
Incroyable.
Et on s'écrit, c'est pas genre on a fait le morceau. On s'écrit, on s'échange des trucs.
Ouais, ouais.
C'est une vraie collaboration. Bon. Ça, j'adore.
Et ça a donné ça. Hey.
Catch me in a zone as I sit there at the moon.
Ça, c'est votre collaboration du coup avec Kid Cudi. On attend d'autres morceaux du coup, c'est ce que je comprends.
Bah ouais, il y en a un autre.
Bon, très
est-ce
bien.
Est-ce qu'il va le garder? Je sais pas. En plus, il y a des gros noms dessus.
Ok, très bien. Bon, ça, c'est pour l'actualité. Tu me connais, je connais bien ta carrière quand même. Et donc, j'avais aussi envie de me faire un petit plaisir de remonter quelques années en arrière et de s'écouter ici Bête de Bombe 4.
Let's go.
Voilà, Bête de Bombe 4, This is la peste à l'époque. This is la peste.
Je lâche un tube quand je veux, j'ai qu'à claquer des doigts. Pour moi c'est facile, j'ai que l'embarras du choix. Faire un son qui entraîne et qui fait pleuvoir des droits, ou un son qui t'emmène et qui fait tomber des droits. Et c'est comme un hold up, je veux que tout le monde lève les bras. C'est l'inspecteur d'Issise, maintenant je suis monté en grade. Dans le rap y'a plus d'oseille, les gros vont mettre les voiles. Si tu veux vendre des scuds, prépare-toi à te foutre à poil ou bien faire des wow wow. C'est dur dans le ghetto. Fini les petites combines, la vie est bien trop rude pour chanter les petites comptines. Tu veux savoir si je suis bon, demande à ta petite copine. Depuis tout à l'heure fait des clins d'œil dans ton dos, la petite coquine. C'est D-I-S-I-Z-Z, toujours pour le bled, bled. Coupable, je bled, bled. Ouais, j'avoue, j'ai dead. Le game est devenu trop faible. C'est this is the N-N, comme Zinedine Zidane. Dan, je pars sur un coup de tête. Ça fait brrrr, j't'inquiète, ah ah ah, j't'inquiète, fait, Bélec, fait, Bélec. C'est de la bébé de boom, car bébé de boom, car fait brrrr, j't'inquiète, ah ah ah, j't'inquiète, fait, Bélec, fait. C'est de la bébé de Bunga, bébé de Bunga. Sache qu'au mic
jeu du sang mobile. On flotte sur somme tous comme les Playmobil. Des rimes de merde et des clips de bill. C'est des CCN et je kill. Je fais des tubes quand je veux, mais j'aime pas quand c'est trop facile. Je connais pas les règles du jeu, je les ai créées.
Imbécile.
MC trop subtil, on peut dire trop sublime. J'ai dit que j'arrête et les MC me supplient. À croire que j'ai un boule et des uns, c'est une chatte. Dès que j'arrive, tous les MC me regardent. Tout d'un coup, je me sens bête. Je me dis que peut-être. Ouais, ça doit être ça, je savais pas que vous étiez deb. Dans mon flow, y'a trop de balles, on dirait une fusillade. Tes oreilles, c'est comme une boîte. Je rampe pas, je défouraille, on se barre à plusieurs. Moi et mon ego, le rap, une touche part, ça s'emboîte comme des Lego. Ça fait brrrr, j't'inquiète, ah ah ah, j't'inquiète, fais, Pélec, fais, Pélec. C'est de la bébé de bon gars, bébé de bon gars. Ça fait brrrr, j't'inquiète, ah ah ah, j't'inquiète, fais, Pélec, fais, Pélec. C'est de la bébé de bon gars, bébé de bon gars.
Le morceau s'appelle Bête de Baume 4 et il est signé This Is, notre invité du jour. Et This Is, on l'a dit, tu es un artiste qui vient du rap et qui a tout le temps tenté des choses dès le début de ta carrière. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de quelques artistes qui ont fait un peu le même chemin que toi, en tout cas. Hein. Qu'on fait des pas de côté. C'est pas le même chemin que toi, justement, mais qu'on fait des pas de côté, qu'on a des trajectoires assez singulières. Et tu me dis d'ailleurs si tu les apprécies ou pas, si t'as envie en tout cas de dire un mot, tu es le bienvenu. Et je voulais commencer avec Lil Yachty et son album Let's Start Here. Donc c'est un disque qui est sorti en janvier 2023 et qui a surpris tout le monde, même ceux qui suivaient le rappeur depuis ses débuts. On connaissait le Lil Yachty mignon, coloré, auto-tuné, presque cartoon, qui avait débarqué avec One Night ou Minnesota.
Stay up out in the streets if you can't take the heat. You need to stay up out in the streets if you can't take the heat. Cause it get cold like Minnesota. Cold like Minnesota.
Mais avec Let's Start Here, donc le nom de l'album, il a tout brûlé. Album de rock psychédélique, guitare saturée, nappe planante, groove analogique. Un disque qui regarde autant vers Tame Impala que vers Pink Floyd. Et ce qui frappe, c'est que c'est sincère. Pas un gadget, pas une posture. On sent un artiste qui cherche une nouvelle peau, un nouveau souffle. On peut dire que le projet a marqué un tournant. Yachty est passé du statut de rappeur de la génération même à celui d'explorateur musical, d'artiste complet. Et surtout, il a ouvert une porte pour toute une génération de jeunes rappeurs qui veulent faire de la musique en dehors du rap. Je crois t'avoir vu acquiescer quand je l'ai mentionné. Est-ce que c'est un disque que t'as écouté, que t'as apprécié?
Carrément, il y a des disques importants parce que tu te rappelles la première fois que tu les as entendus.
Ouais.
Et je partais au ski, j'étais tout seul dans ma voiture, je rejoignais des amis, l'album venait de sortir et je l'ai écouté et j'ai pété un câble. Forcément, moi, j'ai pété un câble parce que il y a plein de références que j'entends, la musique des années 70, tu parlais de Pink Floyd, tout ça, tout ce rock progressif qui, moi, m'inspire énormément. Et lui, sa musicalité, sa voix, j'ai trop aimé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à aimer Lil Yachty à part, j'ai toujours respecté, je savais qu'il était fort, qu'il avait des gimmicks.
Mais
et je me prenais des bangers. Je me prenais les bangers, tu vois. Mais rentrer dans l'univers d'un artiste comme ça, c'est avec ce disque-là.
Bon, si on parle d'artistes qui ont fait des pas de côté, obligé de citer quelqu'un qu'on a déjà mentionné, Kid Cudi, qui avait compris un peu avant tout le monde que le rap pouvait être autre chose que du rap. Man on the Moon, c'est son album sorti en 2009, qui est un petit séisme quand même. C'est un album rap, mais c'est aussi de la pop, du rock indie, sur fond d'exploration cosmique. Cudi chante, murmure, parle de ses failles, de sa solitude, de sa dépression. À l'époque, dans le rap, c'est pas du tout normal.
Day and night. The loneliest owner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night.
Cudi, c'est le premier rappeur mainstream qui a fait de la vulnérabilité un genre musical. Et derrière ça, il a glissé progressivement vers le rock. On peut se souvenir de l'album Speedin' Bullet to Heaven, un disque honni par certains, mais très singulier. Un album rock lo-fi, dissonant, presque grunge. Cudi était un symbole et on mesure aujourd'hui son influence sur Travis Scott, sur Lil Uzi Vert, sur Juice WRLD, sur toute la génération de rappeurs emo. Sans Kid Cudi, une partie du rap moderne n'existe tout simplement pas. T'as dit déjà,
ouais,
voilà, tu le connais. T'as toujours apprécié l'artiste dès le début ?
Non, c'est-à-dire qu'il y avait des morceaux que j'aimais bien parce que sa musicalité, qui est justement un peu, qui peut paraître un peu strange ou alternative parfois, ne m'emmenait pas. Mais sur certains morceaux, c'était et surtout aussi ce qu'il a fait pour Kanye dans 808 and Heartbreak. Tous les, tu sens sa signature et puis sa signature vocale et sa voix incroyable. Il a fait aussi des choses avec MGMT, je crois.
Tout à fait, absolument.
Tout ça, évidemment, ça m'a parlé. On a besoin de toute façon d'explorateurs comme ça pour faire bouger les lignes. Moi, je m'inscris là-dedans en tout cas.
Et je pense qu'il y a un artiste aussi qui nous a quitté, dont finalement la carrière pourrait être rapproché de la tienne, c'est Mac Miller, qui est un artiste dont l'évolution bouleverse encore, parce qu'on le découvre en 2010, jeune, souriant, très college rap, c'est ce qu'on a, comme ça qu'on appelait ça à l'époque, et avec une musique très boom bap. Hey, lace them up, blue suede shoes stay crispy like bacon, Nikes on my feet make my cipher complete, I stay shining like the lights on the street in the night, Revis take me shopping when I'm up in New York. Mais très vite, il y a une bascule, Mac Miller se met à chercher, à creuser, avec Watching Movies puis Good AM, il prend en profondeur, mais ce sont les albums The Divine Feminine et Swimming qui montrent la transformation complète. Mac Miller, c'est l'histoire d'un rappeur qui devient un musicien à part entière, du jazz, du funk, des harmonies complexes, des instruments live, une sensibilité incroyable, il chante, il rappe, il compose, il arrange. Avec l'album Swimming, il signe un chef-d'œuvre d'introspection soul jazz, un album qui parle de guérison, de douceur, de tempête intérieure, et ce disque sorti quelques semaines avant sa mort est probablement l'un des plus beaux témoignages de croissance artistique que le rap ait connu ces 10 dernières années. Mac Miller a laissé un message très simple, on peut être un rappeur et devenir bien plus que ça, on peut évoluer, grandir, se réinventer, sans renier son point de départ. Climbing over that wall. I remember, yes, I remember, yes, I remember it all. Swear the hype be too tall. So like September, I fall down below. Now know that the medicine be on call. Yeah. Just feeling like you hot enough to melt. Yeah. Can't trust no one, can't even trust yourself. Yeah. And I love you, I don't love nobody else. Yeah. Tell them they can take that bullshit elsewhere. C'est le morceau Self Care donc de Mac Miller et ce soir on est avec DC's dans la régulière. Évoluer, grandir, sans renier son point de départ, c'est ce que je disais pour Mac Miller. Ça me rappelle un peu quelqu'un. Il y a quand même quelque chose d'assez similaire.
Oui, bien sûr.
Entre vous, vous faites pas la même musique encore une fois,
mais
dans le quand on regarde le point de départ et le point d'arrivée malheureusement pour Mac Miller et toi ce que tu continues de faire. C'est pas si éloigné, finalement.
Non, c'est marrant, la première fois que j'ai entendu Mac Miller, c'est Grumps qui m'a fait écouter.
Ah, ça c'est un peu...
Et c'était le morceau qu'on a écouté, la Nike's on my feet.
Nike's on my feet, au tout début. C'est intéressant que tu parles de Grumps, parce que vous avez collaboré ensemble. Grumps, c'est un rappeur très important, qui continue encore de sortir de la musique, qui est vu, je sais qu'il aimera pas ça, mais qui a été vu mis dans la scène rap alternative au début des années 2000, mais qui s'en est émancipé, qui a inventer un genre musical. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Le deep pro. Il rappait sur de la deep house. Mm. Et vous aviez un groupe, enfin plusieurs même, d'ailleurs. Ouais. Rouge à lèvres notamment.
Et
Club Sandwich. Et c'est aussi, c'est intéressant parce que c'est un moment où toi, t'es dans une période où tu sortais des albums de rap qui avaient un peu moins d'impact, mais on avait l'impression que tu t'amusais avec Grumps et surtout sur des choses très différentes musicalement. Il t'a tiré aussi vers autre chose.
Bien sûr. En fait, je retrouvais l'effervescence de ce qui m'a plu quand j'avais 13, 14, 15 ans, où t'es dans une musique complètement DIY, où tu sais pas ce que tu fais, tu cherches des sonorités, mais tu tâtonnes, mais tu fais des trucs qui sont complètement géniaux, ce que j'ai fait avec JMD et tout.
Oui. Et t'es le producteur de ton premier album.
Ouais. Et du coup, j'ai retrouvé ça à travers Grumps, et en vrai, cette exploration ou ce côté alternatif que je cherche partout, c'est cette excitation que je cherche partout. Donc quand je digue un nouveau genre musical ou que je réécoute un ancien truc et que je m'en sers comme matière pour faire moi-même ma propre musique, c'est cet état d'esprit-là que je cherche. Et en ça, Mac Miller, c'est exactement ça.
Il y a un album qui, je crois, aussi est important pour toi, cet album Pacifique, porté notamment par le morceau Carré Bleu.
J'aimais pas les profs, j'aimais pas les cours. Près de la fenêtre, jetais la cour. En arrière-plan, il y avait les tours. Et à 15 piges, j'avais déjà fait le tour. C'est à type bizarre, pot de yaourt. On part en camp, se va au quart de tour. La paye toute fraîche d'un job d'été. Avant de récuire des steaks hachés. Négro
et
sur.
Finalement, et je me rends compte si quand on parle de toi sur les réseaux, on sent que c'est un album qui est très important pour une partie de ton public. C'est aussi, je crois, là où tu renouvelles un public, une fanbase. Est-ce que c'est là où tu commences aussi à... Tu parlais de l'amour tout à l'heure, mais est-ce que le point de départ de ta nouvelle formule, quelque part, c'est pas Pacifique ?
Oui, c'est, le point de départ, c'est Peter Punk, mais Peter Punk, c'est raté. C'est un brouillon, c'est surtout le fait de m'extirper, de tout casser, de tout déconstruire, de « Ok, this is le rappeur, c'est fini. » Mais c'est surtout pour moi que je l'ai fait.
Oui, tu vois, genre, il fallait que t'avais besoin de ça.
Ouais, c'est bon. Et puis il y avait aussi pas mal d'épisodes de santé mentale qui faisaient que, tu vois, t'es un peu dans l'extrême des fois.
Ouais.
Mais tant mieux que j'ai fait ça. Au moins, on n'attendait plus rien de moi. Et Pacifique, plus longtemps après, je repars de ça, de cette espèce d'expérimentation que je fais dans ma musique, d'un modus operandi que je cherche, en prenant des compositeurs que j'aime bien, d'écrire des chansons dessus, de l'envoyer à d'autres compositeurs que j'aime bien, qui m'envoient de la matière, et moi, tout seul, avec un ingénieur du son, je prends toute la matière de tout le monde et je constitue un tableau ou une sculpture qui me correspond. C'est là que j'ai commencé à élaborer ça, et les gens qui ont apprécié l'amour ou qui ont apprécié... Il y a des gens qui m'apprécient que à partir de cet album-là.
Exactement.
C'est là que ça a commencé pour eux.
Et le ski avant, peut-être, ne les intéressera peut-être même pas parce que c'est autre chose. Et peut-être qu'ils aimeront même pas alors qu'ils vont adorer la deuxième partie de carrière.
Bien sûr. Mais moi, je crois aussi. Hein, je crois que la dernière fois, j'étais avec ta confrère Camille Diao qui me faisait réécouter mon approche du chant. Et donc, les premiers morceaux où j'ai chanté dans mes refrains, quand j'étais plus jeune, tout ça et tout. Et tu sens que aujourd'hui j'assume ma voix, j'aime bien, j'ai plaisir à chanter, alors qu'avant je suis vraiment en recherche et c'est pas bien.
Est-ce que pour un artiste comme toi, finalement, c'est pas plus simple entre guillemets d'évoluer avec le public actuel qui a l'air quand même beaucoup plus ouvert, qui a des choses très différentes dans sa playlist, qui se pose un peu moins les questions que nous sur les genres musicaux. Mmh. Moi, quand j'avais 15 ans, j'écoutais du rap et pas autre chose.
Ouais, on était des ayatollahs, faut le dire. Hein.
Exactement. Ah, et j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour un artiste comme toi qui en fait navigue entre les genres musicaux. Finalement, le public, les gens qui ont 15 ans aujourd'hui sont presque plus d'ici compatibles que ceux qui avaient 15 ans quand t'as commencé à faire la musique en fait.
Ça c'est sûr, la désintermédiation et le rapport à la musique, comme on écoute et le fait qu'on puisse faire ses propres playlists. Moi quand j'étais petit, c'était pas possible.
Bien sûr.
De l'argent à Noël, t'as acheté un album. Tu pouvais pas en acheter deux, et t'es allé le saigner, le poncer. Mais il y avait quelque chose de fort là-dedans aussi, c'est que la sacralisation d'un album qui t'habitait pendant une période de ta vie, aujourd'hui c'est plus compliqué, mais c'est autre chose. En tout cas, de mon côté, en tant qu'artiste, c'est sûr que c'est plus détendu aujourd'hui d'avoir des propositions musicales qu'avant.
Est-ce qu'il y a une peur que les gens n'écoutent pas vraiment l'album? Tu sais, aujourd'hui, il y a tellement de propositions, c'est-à-dire que ton album est sorti vendredi, là, il y en a encore 20 qui vont sortir. Alors, il y a des gens qui t'aiment vraiment et pour qui l'album va les accompagner, mais il y a aussi, c'est compliqué de consacrer autant de temps, parfois oui. sur un album. Est-ce qu'il y a cette crainte-là, quand on dit autant de choses en plus dans un album, que finalement tout se perde, tout se dilue, et que le public ne capte pas tout ce que tu as envie de dire ?
Il y a un peu de ça. En tout cas, ce qui me faisait peur dans ce disque-là, l'enjeu que j'avais et qui a monté mes pics de stress au plus haut point, c'est que j'ai tout le temps raté mes follow-up. C'est-à-dire qu'après Le Poisson Rouge, j'ai sorti Jeu de Société qui n'a pas fonctionné. Après Lucide, j'ai sorti Extra Lucide qui a moins fonctionné. Et Pacifique, j'ai sorti This Is Ila qui a moins fonctionné. Et je parle pas que de vente. Je parle de compréhension de ma musique, d'adhésion, de on a envie d'y aller, on a envie d'aller au concert et tout. Et là, j'ai réussi mon follow-up. Donc c'est ça qui me faisait peur. Et je suis satisfait de ça.
Les gens sont là.
Ouais, les gens sont là. Des nouveaux gens sont là. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « Ah, moi, je préférais l'amour » et tout ça et tout. Après, en concert, moi, je vais chanter les morceaux de l'amour aussi. Et puis, il y a quand même une continuité avec... c'est quand même la même trajectoire, le même bonhomme. J'ai pas fait un nouveau face reveal comme Peter Punk, tu vois. C'est Sering, je suis là, les gars. C'est toujours le même, c'est votre gars.
Bon. Mais j'aime ça, d'ailleurs, ça y est, maintenant. En fait, je dis pas que tu t'es trouvé, mais je pense que maintenant, tu peux tout... t'endosser ouais. sous le nom de d'ici sans c'est, avoir à aller ça. Créer un personnage aujourd'hui.
C'est ça, parce que je me suis émancipé à la fois du regard que l'on portait sur moi, et comme tu le disais, c'est plus la même époque.
Ouais.
C'est plus même le fait que toi, tu sois sur cette antenne-là aujourd'hui, c'est plus la même époque. Avant, c'était compliqué, quoi. Fallait représenter les pas de côté, c'était dur, ouais, c'était compliqué.
Bon, je pense qu'on écoute une artiste qui, elle aussi, aime bien les pas de côté. C'est une rappeuse anglaise. Je suis sûr que tu l'apprécies, Little Sims.
Bah, bien sûr.
Et évidemment, je prends pas beaucoup de risques. On va s'écouter un morceau génial qui s'appelle Young. Tout de suite, Little Sims dans À la régulière.
Creeping in my window, I get a hot flash whenever the wind blows. Nothing to my name now when everybody knows. When I'm in need of cash, I go down to the bingo. Last night I asked Jenny for a quid. This is the fifth time I'm used to taking the piss. A bottle of Rio and some chicken and chips in my fuck me up pumps and my winehouse quiff.
We love you, Amy.
Who's that knocking at the front door? Bills, bills, please no more. I'm 20-something young with my priorities straight. Yeah. I need to buy a booze and I need to buy a draw. This summer I'm going out every night. Yeah. Anyone can get it, I ain't scared of a fight. You can be down or be on the other side. True. But this is my idea of the perfect life. Listen, but taught myself to fire when I needed ammunition. I taught myself to sing and I taught myself to shout. I taught myself how to get by and go without. I taught myself to make a proper English breakfast, because I'm a little teapot short and stout. I'm that girl all alone in the crowd, because all of you's are followers and do it for the clout. I can't afford to be what everybody's on. The only way I can afford is if you do a discount.
C'était Little Sims avec le morceau Young.
Midi Maizy sur France Inter.
This is, c'est l'heure des recommandations.
Ok.
Et tu m'en as donné.
Ouais.
Et tu m'as même fait découvrir un artiste qui s'appelle Heather, je dis pas de bêtises, ça
ouais,
se prononce comme
Heather,
ça.
Ouais.
Et Heather, et ça ressemble à ça. Alors c'est quoi ?
Heather, si je dis pas de bêtises, il vient des États-Unis.
Ouais, je crois, ouais, c'est
il
ça.
Vient de la Californie. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais c'est un mec qui fait des albums depuis peut-être 4-5 ans. En tout cas, moi, j'écoute depuis 4-5 ans. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des boucles de samples que DJ Premier ou moi-même, oui. je pourrais sampler encore aujourd'hui. Sauf que tout est nouveau, tout est fait dans son studio avec ses guitares, avec une voix très haute et une musicalité. Vraiment, je le trouve trop fort.
Comment tu tombes, du coup, sur la musique comme ça? C'est les algorithmes ou c'est quelqu'un qui te le recommande? Comment tu découvres la musique?
C'est les deux.
Ouais.
C'est les deux. Bah, le morceau Mélodrama ou T'es comme un son qu'aurait pas Shazam, il vient d'un jeu que j'ai inventé où quand je rencontre quelqu'un et qu'on sociabilise en soirée et que, bah voilà, en gros, le jeu, c'est je te fais écouter un son, tu me dis la vérité, tu le connais pas, est-ce que tu l'aurais Shazam ou pas?
Okay.
Si tu l'aurais Shazam, je mets un autre son. Et si tu l'aurais pas Shazam, c'est à toi de me faire écouter un son. Comme ça, on se partage du son, on se fait découvrir du son. Je mets un copyright sur ce concept si quelqu'un veut le prendre.
Bon, écoute, c'est déjà sur ma chaîne YouTube. Ouais. Tout de suite, ça, je vais vendre ça à une marque. tout de suite, c'est le nouveau rap jeu.
Mais du coup, voilà, tu vois, donc il y a des recos qu'on me fait, des choses que je vais chercher avec l'algorithme, mais aussi ma culture musicale qui depuis que j'ai 6 ans, je suis comme toi. On peut pas s'arrêter d'écouter du son, de découvrir. Même si on sature, on va arrêter, mais à un moment, on va retomber dessus dans un film, n'importe quoi, tu vois.
T'as recommandé un livre que j'aime beaucoup, mais qui est un classique dans, on va dire, la littérature hip-hop. C'est Can't Stop Won't Stop de Jeff Chang, qui est vraiment un livre, si vous ne le connaissez pas, qui est une bible, qui est un énorme livre, qui revient vraiment sur l'histoire du hip-hop depuis la Jamaïque, depuis le lien entre les sound systems et les blocs partis dans le Bronx.
Et les gangs après.
Et les gangs, exactement. Et donc ça, c'est un livre que t'as lu et qui t'a plu.
Bah en fait, la musique que je fais aujourd'hui, tu parlais de pas de côté de tout ça et tout. Moi, quand j'arrive à 15 ans, j'ai toute l'histoire du hip-hop qu'on me raconte à travers Get Busy, à travers les émissions que je glane de ci, de là et tout. Mais j'ai pas une approche, j'allais dire, étudiante de ça. Et du coup, pour moi, le rap, c'est comme ça. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, quand j'ai vu tous les accidents de la vie qui ont fait qu'un tel a écrit pour un tel, mais qu'en fait, ça voulait dire ça, puis ça venait de là, puis un tel s'est inspiré de ça et de ça, j'ai dit, mais en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça a déconstruit beaucoup de choses. Et le hip-hop, c'est ça pour moi. C'est vraiment, c'est un catalyseur, tu prends ce que tu veux, tu le mets dans ta réalité et tu fais, et t'en sors quelque chose qui t'est propre.
Qui te ressemble.
Ouais.
This is, c'est l'heure de la question qui tue.
Ok. Ah. J'ai pas réfléchi, en plus je viens d'y penser maintenant que tu le dis.
This is, je la fais beaucoup.
Qu'est-ce qu'il va me dire?
Je vais faire la même que j'ai fait à beaucoup de personnalités du rap français. Quel est pour toi le plus grand album de l'histoire du rap français?
Déjà, il va falloir du temps pour répondre. Non, mais pour la vérité, c'est un album en entier en plus.
Est-ce que t'en as un qui devient comme ça le plus rapidement?
La vérité, j'en ai trois. Que je dise pas de bêtises, c'est pas le premier, mais c'est un album qui est déterminant. C'est L'école du micro d'argent pour moi.
Youssoupha était là, il a dit je ne vois pas comment on peut répondre autre chose que ça. Pour lui, il n'y a pas de débat. C'est L'école du micro d'argent, c'est le plus grand.
Mais parce que un plus grand album, c'est aussi par rapport à l'âge que tu as quand tu l'écoutes.
C'est
donc
vrai.
C'est générationnel.
Tout à fait.
Tu vois. Qui je mettrais? Je suis obligé de, même s'il y a tout un tas de choses pour lesquelles j'ai pas envie de citer son nom, mais je suis honnête artistiquement et je pense que les premiers albums de Booba, c'est même quand je réécoute maintenant.
Donc Temps mort, Mauvais œil,
voilà. Quand t'écoutes l'écriture, quand tu vois ce que ça veut dire, à quel point c'est saisissant à ce moment-là, moi qui ai 2 ans de moins que lui, avec le recul, je suis obligé de dire que c'est trop fort à ce moment-là. Et après, bah moi, j'ai vraiment aimé Une main lave l'autre d'Alpha One.
Ah, quelque chose de plus récent, ça fait plaisir.
Je trouve que c'est... même encore quand je réécoute, rien que le premier morceau où il fait la phase sur certains l'appellent
Tu l'appelles mère patrie, je l'appelle damnation.
Rien que
là,
ça,
scratch extraordinaire, les gens crient. C'est
voilà,
magnifique.
C'est-à-dire que rien que ça, c'est pas tout le monde qui a une entrée comme ça.
Ouais.
Et c'est déterminant et ce sont de très 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 beaux albums que tu réécoutes encore maintenant ouais. Et tu dis waouh, tu vois. Donc voilà, si je suis honnête, si je suis fair play, je dirais ça.
T'as été honnête et fair play. Mm. T'as été D6 finalement.
Comme d'hab.
Bon, merci beaucoup D6 d'avoir été
merci
là. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. On rappelle que ton nouvel album, On s'en rappellera pas, est disponible. Allez l'écouter. Merci encore vraiment
merci
pour ta présence. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexa Lacour, Redouane Tella. Une émission réalisée par Guillaume Giraud. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Jules Benveniste. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Bon week-end. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France. Merci.
À la régulière sur France Inter, Mehdi Maizi.